Alors, en premier, je vous demanderai de vous présenter et de présenter le lien qui vous unit en tant que sociologue à la soi-disant affaire Tarnac.
Je suis un sociologue qui s'intéresse à la réforme des polices, de la justice, des lois antiterroristes depuis une dizaine d'années, aussi bien en Belgique, en France, en Europe occidentale et aux États-Unis. Alors, ce qui m'avait intéressé spécialement dans l'affaire de Tarnac, c'est que c'est un bon modèle, un bel exemple qui explique la nature des lois antiterroristes. C'est-à-dire que je sais depuis longtemps que les lois antiterroristes ne servent pas à s'attaquer à des actes de poser des bombes, détourner un avion, hein, tous actes matériels qui peuvent être punis normalement par le code pénal. Et donc si on a créé des législations antiterroristes, c'est pour autre chose, c'est-à-dire pour créer une virtualité de langage qui permet d'enfermer la population dans une espèce de psychose. Et l'exemple de Tarnac est très très bien pour expliquer cela.
Est-ce qu'il faut dire, selon votre point de vue, qu'est-ce qui s'est passé à Tarnac le 11 novembre 2008?
Par 150 policiers dont la plupart étaient cagoulés. On est venu arrêter quelques personnes à l'intérieur de ce village. Il faut savoir également que la presse, la télévision étaient conviés par la police et donc il s'agissait vraiment d'un spectacle qui était orchestré par le ministère de l'Intérieur pour en fait créer une espèce d'effroi dans la population. Pour faire croire qu'on avait arrêté des terroristes très importants. Alors ces gens, la plupart ont été libérés relativement rapidement, puisqu'il n'y avait rien à leur reprocher de matériel, sauf une fille est restée beaucoup plus longtemps, et il reste toujours une personne qui est emprisonnée, donc depuis pratiquement 3 mois actuellement. Il faut savoir que ce qui est très particulier dans cette affaire, c'est que ils ont été poursuivis parce qu'on les accuse d'avoir créé des dommages à la SNCF, c'est-à-dire qu'il y a eu des actes de sabotage qui ont eu pour effet de ralentir les trains, c'est-à-dire que des caténaires ont été cassés, donc l'électricité n'était plus transmise et que le train était donc arrêté. Donc là, il y a déjà un premier glissement sémantique. Hein, ce sont des actes de sabotage qui ne mettent absolument pas la vie humaine en danger, qui simplement pour effet de ralentir le train, hein, de lui provoquer des retards, et ça, c'est traité d'actes terroristes. Hein, les trains sont habituellement en retard en Europe, hein, en France, en Belgique. On n'a jamais accusé un convoyeur de train de terrorisme parce que son train était en retard. Donc vous avez le premier glissement sémantique ici à ce niveau, c'est-à-dire considérer des actes de sabotage comme il existe régulièrement dans les mouvements sociaux comme des actes de terrorisme. Donc déjà là, on voit exactement où le pouvoir veut en venir, c'est-à-dire que tout acte de résistance à un moment déterminé dans un mouvement social pourrait être catalogué de terroriste. Ensuite, il y a un deuxième glissement qui est plus intéressant puisque c'est vraiment ce qui spécifie l'affaire de Tarnac, c'est que aussi bien le procureur, les policiers et même la ministre de l'Intérieur, Madame Aliette Marie, dit que il n'y a rien de preuve matérielle qui prouve que ce sont eux qui ont abîmé ces caténaires, mais que par leur profil, leur mode d'existence, ça ne peut être que. Donc ça veut dire que ce qu'on incrimine ici, ce ne sont pas des actes matériels, puisqu'on dit qu'on n'a absolument pas la preuve, mais ce sont des modes de vie. En fait, ce qu'on leur reproche, c'est ce sont des jeunes gens qui viennent de la ville, hein, qui sont installés à la campagne, ce sont des gens universitaires qui sont hyper diplômés, et ils ne veulent pas faire de l'argent. Et dans le discours du pouvoir, il est suspect de ne pas vouloir faire de l'argent, surtout lorsque on a été formé pour. Donc ça devient une circonstance aggravante. Ce sont des modes de vie, des comportements qui sont reprochés. Hein. À chaque fois, on répète qu'il n'y a pas ces éléments matériels. créer une vie sociale au sein du village. Donc vouloir faire des relations humaines, recréer un lien social, est un acte qui peut être qualifié de terroriste, puisque c'est quelque chose qui s'oppose en fait à la toute-puissance du pouvoir, hein, qui a cette toute-puissance parce qu'elle divise les gens qui vivent isolés les uns des autres. Donc à ce niveau-là, c'est une affaire intéressante, parce qu'elle permet de voir la finalité exacte des luttes antiterroristes sans passer directement par d'autres éléments. Hein. Généralement, les affaires qu'on a ici en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, et qui concernent la problématique de lutte antiterroriste, ça concerne essentiellement des islamistes, c'est-à-dire des gens qui sont accusés soit de vouloir créer des attentats, mais également sans aucune preuve matérielle, ou d'avoir posé des actes de solidarité avec des réseaux qui sont allés combattre en Irak. Donc il y a toujours cet élément de l'autre, de l'étranger, la diabolisation de l'islam. Ici, ce sont des Français, hein, de bons vrais Français depuis toujours, des jeunes gens de bonne famille, hein, qui ont des niveaux d'études importants. Donc ce ne sont pas des gens qui peuvent être facilement qualifiés comme autres. Donc le message du pouvoir est particulièrement explicite à ce niveau, hein, ça concerne tout un chacun. Donc on ne vise pas une frange particulière de la population qui est déjà diabolisée au départ comme les islamistes, on vise tout un chacun, tout Français moyen et même qui fait partie des bonnes classes de la société. C'est en cela que l'affaire de Tarnac est particulièrement intéressante.
Et quels sont les impacts de ces arrestations dans le contexte de la France ?
Justement, c'est un peu diversifié. Il y a eu pas mal d'articles de presse. Hein. La presse, au départ, était assez frileuse. Hein. Des journaux comme Le Monde ont d'abord fait le gros dos. Et puis, on a même vu des journaux, qui sont quand même des journaux qui sont largement inféodés au pouvoir, puisqu'ils ont largement soutenu Sarkozy dans la campagne électorale. C'est retourné. Il y a de plus en plus d'articles qui montrent le caractère absurde hein, des différentes arrestations. Donc, au niveau de la couverture médiatique, le message passe assez bien hein, qu'il n'y a pas de preuves contre eux et qu'ils sont retenus d'une façon arbitraire. Alors, au niveau de la société, c'est plus problématique puisqu'il y a eu une manifestation à Paris qui a recruté 3000 personnes. C'est-à-dire, c'est essentiellement des milieux anarcho-syndicaux, anarchistes ou autonomes qui se sont retrouvés au niveau de la manifestation et ils ont été isolés du reste des forces sociales. Vous avez par exemple le parti de la Nouvelle Gauche de Besancenot qui, immédiatement que les gens ont été arrêtés, sans même prendre connaissance des faits, a déclaré que eux, comme extrême gauche, étaient des gens qui ne commettaient pas d'attentats. Donc ça laissait supposer que des autres en commettaient. Donc ils enregistrent directement la division que le pouvoir veut installer entre les gens. Et là, effectivement, c'est assez dangereux parce que à travers cette affaire, ce que veut le pouvoir, c'est de montrer qu'il peut maintenir en détention n'importe qui sans avoir besoin d'apporter de preuves. Donc ce qui est en jeu, là, c'est la question de l'habeas corpus. Comme explicitement, c'est le cas au niveau américain, hein, où ça je peux en parler un peu plus tard. Et il n'y a pas de réaction de masse des partis de gauche, hein, des syndicats, donc comme si c'était une affaire qui était marginale par rapport à leur propre pensée, à leur propre problématique, à leurs préoccupations. Alors qu'effectivement, c'est un problème central, puisque ça concerne l'habeas corpus de tout un chacun et tout. Si cette affaire ne se règle pas dans un rapport de force favorable aux personnes qui sont incarcérées, ça crée un précédent. Donc ça montre qu'on peut arrêter n'importe qui, dire qu'on n'a pas de preuves contre lui et le maintenir quand même en détention. Ça, c'est l'enjeu fondamental de cette affaire.
Ce qui met Julien Coupa dans une situation particulière. Mais pourquoi est-ce qu'on le retient, lui ?
Ben, parce qu'il faut bien retenir quelqu'un. On a créé le mythe du chef. Ce qui est particulier, ce sont des gens qui automatiquement affirment clairement qu'ils vivent sans hiérarchie. Et là, on a créé un mythe du chef, il faut retenir quelqu'un. Donc on retient Coupa, parce qu'il était désigné comme tel. Je pense qu'il n'y a pas d'autre logique que ça. comme terroristes, comme des personnes extrêmement dangereuses, et elles sont remises en liberté. Donc le pouvoir montre qu'il se contredit lui-même, donc qu'il peut à la fois retenir en détention les gens qu'il désigne, et qu'il peut remettre en leur, qu'il peut libérer les autres. C'est un mode de fonctionnement qui fait de l'arbitraire le fonctionnement normal des institutions. Et le but de cette affaire, c'est de légitimer ce type de comportement du pouvoir, de le faire accepter par les populations.
Mais c'est aussi dans le cadre d'une guerre que l'État français mène contre un soi-disant mouvement anarcho-autonome ou ultra-gauche.
Oui, mais ce mouvement, ça n'existe pas, en fait. Hein. C'est une création tout à fait du pouvoir. Les gens de Tarnac ne sont pas une avant-garde politique. C'est important de comprendre avec ça. Ils ont participé à des mouvements sociaux, mais ils ne sont pas l'épine dorsale. Ils ne sont pas l'avant-garde de ces mouvements sociaux. Ils sont des gens qui se sont insérés dans des mouvements sans les organiser. Ils étaient partie prenante comme des milliers d'autres personnes étaient partie prenante. Donc cette notion anarcho-autonome, gauche de gauche, ultra-gauche, bon, c'est une histoire. C'est une histoire qui est créée de toutes pièces jusque la rend tout à fait ridicule. Hein. C'est pas là l'essentiel. C'est qu'on accepte ou qu'on fasse semblant de croire dans cette histoire. On s'attaque pas à une avant-garde politique, sinon c'est pas eux qu'on aura arrêté dans les mouvements sociaux. On aura arrêté, mais ce qu'on veut, c'est créer une espèce d'image, en fait. C'est une guerre d'image. On crée une image et on dit cette image est négative.
Oui, tout à fait. Puis ça se situe dans ce que vous appelez, dans un des livres que vous avez publié, The Global War on Liberty. Est-ce que vous pouvez commenter un peu à partir de ce livre?
Mais ce qui est essentiel dans Global War on Liberty, c'est que c'est la place que je donne à une loi américaine, hein, qui est le Military Commission Act of 2006, qui est une loi qui est passée relativement inaperçue dans les autres pays. En tout cas, on en a beaucoup moins parlé que le Patriot Act, hein, qui est passé directement après les attentats du 11 septembre. Et pourtant, c'est une loi beaucoup plus importante. Parce que après les attentats du 11 septembre, il y a un ensemble de mesures qui ont été prises à la fois dans le Patriot Act, qui autorisait par exemple d'incarcérer sans inculpation, sans même donner aucune preuve, ni même notifier l'inculpation à la personne, tout étranger qui était nommé comme terroriste, soupçonné de terrorisme par le pouvoir exécutif. Et ensuite, on a fait passer un arrêté présidentiel qui permettait de juger ces gens-là devant des commissions militaires. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'il s'agissait d'arrêter du pouvoir exécutif et de mesures qui étaient, même la loi Patriot Act, c'était des mesures qui étaient justifiées par l'état d'urgence. C'est-à-dire que les attentats du 11 septembre, le gouvernement est parvenu à imposer la chose que c'était pas un acte criminel, mais que c'était un acte de guerre contre les États-Unis. Donc si les attentats sont reconnus comme un acte de guerre, ils justifient un ensemble de mesures qui suspendent des droits constitutionnels. Donc c'est l'état d'urgence qui justifie, vu qu'on a été pris à la fois dans la loi le Patriot Act, et surtout dans les arrêtés ministériels qui créent, enfin les arrêtés présidentiels, nous sommes aux États-Unis, qui créent les commissions militaires. Ce qui arrive avec le Military Commission Act, c'est que on n'est plus dans l'état d'urgence. C'est-à-dire que les commissions militaires et la possibilité d'arrêter un étranger et de le mettre en détention de façon indéfinie, sans même la nécessité de le juger, ça entre dans la loi. Par le Military Commission Act qui est voté en 2006, on change de registre, c'est-à-dire on passe de l'état d'exception, de la justification des mesures qui sont prises au niveau de l'état d'urgence, à l'inscription de mesures exceptionnelles dans la loi. Donc on n'est plus dans l'état d'urgence, mais on est dans la permanence. Ça veut dire que les commissions militaires, qui sont des tribunaux spéciaux, qui sont tellement liberticides qu'ils violent le code militaire lui-même, puisque dans ces commissions militaires, les droits de la défense n'existent pas. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, puisque les juges sont des juges militaires qui sont nommés, même pas par la hiérarchie militaire, mais directement par le président. La défense est un avocat militaire qui est désigné d'office également par la présidence. Le prisonnier n'a pas le droit de confronter les preuves, si ces preuves sont classées secret défense et comme elles sont automatiquement classées secret défense, ni lui, ni l'avocat militaire qui lui est commis d'office n'a accès à la matérialité de la preuve. Donc la personne, non seulement, est dans une situation de renversement de la charge de la preuve, puisque c'est elle qui doit prouver qu'elle n'est pas ce qu'on dit d'elle, mais on ne sache pas exactement ce qu'on lui reproche. Donc on est vraiment dans un système tout à fait kafkaïen, hein, qui montre que le droit de la défense n'existe pas, vous êtes nommé en tant que terroriste, et vous n'avez aucune possibilité de vous défendre. Et ça n'est plus une situation exceptionnelle qui est jugée, qui est justifiée par un état de guerre, mais cette guerre est permanente. Hein, c'est la guerre contre le terrorisme. Ce qui est spécifique de la guerre contre le terrorisme, c'est qu'elle est indéfinie et permanente. Donc, en entrant dans la loi, les commissions militaires deviennent la base sur laquelle se réorganise l'ensemble du système pénal américain, mais, comme je le développerai plus tard, également l'ensemble du système pénal mondial, dont le système européen et également le système canadien.
Et en cela, ça joue aussi en arrestation et l'emprisonnement continu dans le cas de Julie Kupa. Ça a été aussi le cas dans celui de 10 ans.
Oui, mais elle a été libérée. Hein.
Oui, mais ça fait un an qu'elle est emprisonnée sans procès.
Et effectivement, elle vient d'être libérée. Donc c'est ce qui risque d'arriver à Julie Kupa, c'est qu'il y a un an, et même on a la possibilité de le garder quasiment jusqu'à 2 ans en prison. Lisa, elle est sortie de personne n'est au courant, il n'y a pas de réaction à ce niveau-là. Et donc, jusqu'à présent, le pouvoir a gagné. Ils ont la possibilité d'arrêter une personne, de la maintenir en détention sans avancer aucune matérialité de preuve, et de la relâcher à leur bonne convenance. Donc on crée ainsi une situation où on tend à légitimer, à faire accepter par la population ce genre de comportement de la part du pouvoir. Donc c'est bien l'habeas corpus qui est en jeu, c'est-à-dire la capacité de disposer de sa propre personne. C'est pour ça que j'avais fait le rapport avec le Military Commission Act. Hein, c'est que effectivement la première caractéristique du Military Commission Act, c'est de s'attaquer à l'habeas corpus. Puisque je vais continuer un peu sur ce registre-là, le Military Commission Act, donc non seulement légalise les commissions militaires, donc ces tribunaux militaires spéciaux, tel que je viens d'en parler, mais il y a encore quelque chose de plus important. C'est que le Military Commission Act autorise le président à désigner comme ennemi combattant illégal, c'est-à-dire comme terroriste, tout étranger, comme dans le cas tout de suite après 2001, mais là c'est les étrangers capturés sur le champ de bataille. Non, ici c'est tout étranger qui vit aux États-Unis, ou tout étranger qui vit à l'extérieur des États-Unis, par exemple en France ou au Canada, qui n'a jamais été sur un champ de bataille. Et en plus, le pouvoir a la capacité de désigner comme ennemi combattant illégal ses propres citoyens. Et alors, on est désigné comme ennemi combattant illégal, non pas parce qu'on a commis un acte déterminé, mais simplement parce qu'on est nommé comme... Alors, si on était un étranger, jusqu'à présent, hein, on est jugé dans une commission militaire. Bon, avec Obama, on ne sait pas trop dans quel sens ça va, puisque Obama veut maintenir quand même le système des commissions militaires pour les gens qui sont désignés les plus dangereux. Mais en même temps, les gens maintenant puissent être jugés dans la juridiction civile n'offrent pas tellement de garanties, puisqu'il y a eu des procès au mois de novembre, ou des appels en habeas corpus devant des tribunaux civils sont très très inquiétants, dans la mesure où le tribunal civil à fonctionner avec les mêmes procédures que les commissions militaires, c'est-à-dire accepter des preuves secrètes auxquelles la défense n'a pas accès et des preuves obtenues par oui dire. Donc, vous voyez, l'enjeu, c'est que les commissions militaires contaminent l'ensemble du code pénal des États-Unis. Et donc, la question de l'habeas corpus, donc du droit de disposer de soi-même, ne soit pas uniquement un enjeu qui va avoir lieu devant les commissions militaires, mais devant n'importe quel tribunal civil des États-Unis. Ce Military Commission Act, en quoi est-il important? C'est parce que c'est un véritable renversement du système de droit. C'est la première fois qu'il existe dans l'histoire la capacité d'un pouvoir de désigner ses propres citoyens comme ses ennemis. Normalement, l'ennemi, c'est l'extérieur. C'est une puissance extérieure. Ici, c'est n'importe quel citoyen étranger d'un pays avec lequel les États-Unis ne sont pas en guerre, et c'est également les citoyens américains. Et l'enjeu de ça, et là, c'est inscrit dans le droit, c'est la capacité de supprimer l'habeas corpus des personnes qui sont désignées comme telles par le pouvoir exécutif. Alors, évidemment, ce qui est spécifique au Military Commission Act, c'est que c'est inscrit dans le droit, dans la loi. La situation de Tarmac, c'est plus compliqué, puisque ici, ce n'est pas inscrit dans le droit. On doit violer le droit français pour maintenir les gens en détention sans l'obtention, sans une inculpation sur la base de preuves matérielles.
Est-ce que dans ce cadre-là, il n'y a pas un problème fondamental aussi, par exemple, avec la notion de terrorisme qui est tellement floue qu'elle peut utiliser de n'importe quelle façon?
Mais oui, c'est l'objectif d'une législation antiterroriste. Hein, c'est que c'est un droit purement subjectif qui laisse une très grande interprétation non seulement aux juges, mais également au pouvoir exécutif. Puisque à travers les mesures antiterroristes, il y a un déplacement de pouvoir du juge vers le pouvoir exécutif. Pour en revenir à ce qu'on disait en début d'émission, ce qui caractérise les législations antiterroristes, ce n'est pas de condamner justement des actes bien déterminés, mais c'est non seulement de pouvoir s'attaquer à des intentions qui sont prêtées aux personnes, puisque les législations antiterroristes créent des délits d'intention, et généralement ces intentions, elles sont simplement attribuées aux personnes qui sont inculpées. On crée des délits d'appartenance, mais ça, ce sont des choses qui existent tendanciellement dans toutes les lois antiterroristes depuis 2001, hein, les lois qui ont été prises en France, en Belgique, etc. Ce qui est spécifique dans la situation de Tarmac, c'est la clarté avec laquelle le pouvoir montre qu'il n'a pas d'éléments matériels. Moi, c'est ce qui m'apparaît le plus caractéristique de cette affaire. C'est parce que généralement, dans les procès qu'on a eu en France et en Belgique, le pouvoir avance certains éléments matériels qui gonflent. Et surtout, je parle des procès belges et français, il agit au niveau de ce qu'on appelle le délit d'appartenance. C'est-à-dire que vous n'avez commis aucun acte répréhensible, mais vous faites partie d'une organisation qui est labellisée, qui est désignée comme terroriste. Donc le fait que vous ayez même des relations assez peu suivies avec cette organisation vous désigne automatiquement comme terroriste. Ici, ça fait partie également de l'affaire de Tarmac, puisqu'on a créé tout un imaginaire sur une organisation terroriste, quoi, clandestine, etc. C'est la première fois qu'on dit qu'il n'y a pas d'éléments matériels.
Comment y est utilisé l'insurrection qui vient dans cette affaire?
Oui, mais ça, c'est pas un élément matériel. Avoir écrit un livre tout à fait abstrait qui ne fait référence à aucune situation concrète n'est pas un élément matériel de preuve.
Oui, mais ils utilisent ça un peu comme une preuve, quand même.
Mais qu'est-ce que ça a comme preuve matérielle d'avoir écrit un livre? En quoi avoir écrit l'insurrection qui vient vous désigne comme responsable des sabotages des caténaires de la SNCF? Ouais. Quel est le lien matériel qui semble les deux?
Alors, je pense qu'on s'entend sur le fait que c'est pas une preuve matérielle. Le pouvoir utilise beaucoup le livre pour incriminer Julien Coupa.
Comme quoi il appellerait au sabotage et donc qu'il y aurait un lien avec cette bande.
Et alors qu'on sait même pas si Julien Coupa a écrit l'insurrection qui vient.
Hein? Oui, c'est Coupa. Ça. Oui, il n'a jamais reconnu être l'auteur principal, en tout cas,
Tout à fait.
Là, on est dans la virtualité.
Mmh. Oui, tout à fait. Et c'est ce que le pouvoir entretient.
Mais oui, et le pouvoir montre que c'est une virtualité. D'habitude, dans les autres affaires qu'on a eues en Belgique, effectivement, toutes les affaires sont une virtualité. Mais ici, c'est la première fois que le pouvoir dit lui-même, il n'y a pas d'élément matériel. Mais ça ne peut être que par leur mode de vie, par leur profit. Donc on est vraiment dans la création d'une psychose. Et la création de cette psychose, c'est-à-dire d'une réalité virtuelle, le dis, nous sommes dans une guerre contre le langage, contre le fait d'établir un rapport entre les mots et les choses que le désirent. Au contraire, il y a une reconstruction du langage. Vous voyez par exemple que dans l'acte, dans ce que par exemple une déclaration de la ministre Agathe Marie, elle dit, on a retrouvé des éléments matériels qui ont été saisis chez eux. C'est par exemple un document qui reprend les horaires des trains, gare par gare. C'est-à-dire que vous avez là un horaire de la SNCF qui devient un document particulièrement inquiétant dont la possession peut être un élément qui vous désigne comme responsable de sabotage contre les trains. On a saisi également du matériel d'escalade, hein, donc matériel d'escalade qu'on pense qu'on peut utiliser pour aller saboter les caténaires qui sont au-dessus des piliers. Et qu'est-ce que c'est le matériel d'escalade? C'est une échelle, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans n'importe quelle maison de campagne en France. Donc vous avez la reconstruction d'une nouvelle réalité à partir d'un langage qui n'est plus en liaison avec l'élément matériel, mais par une virtualité qui est créée par le pouvoir. Donc on est vraiment dans une situation psychotique. Et la situation est psychotique puisque les faits ne sont pas niés, c'est-à-dire l'absence d'éléments matériels n'est pas niée, mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on a construite.
Et ça continue la guerre contre la liberté, telle que vous le disiez dans votre livre?
Oui, c'est une guerre contre la liberté, mais c'est encore plus loin. C'est une guerre contre toute forme de conscience. Hein, la psychose est ici qui est l'instauration d'une structure psychotique par le pouvoir, et est une guerre contre toute forme de conscience et contre toute possibilité d'en créer une.
Mais comment on s'oppose à cette guerre?
Je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord ramener les faits. Non pas pour la façon dont ils sont utilisés dans la structure psychotique, c'est-à-dire pour déclencher le délire, puisque en fait l'acceptation des faits n'est pas possible dans le discours psychotique. Donc on déclenche le délire, on dit il n'y a pas de preuve matérielle, mais ça ne peut que par leur comportement, et ça tombe. Donc nous on doit rétablir les faits, mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est une question de rapport de force, de mobilisation sociale. Et ce qui se passe pour le moment, c'est que cette mobilisation sociale n'est pas là. Elle est relativement faible. Le mouvement syndical n'est pas concerné, puisque la CGT, comme la nouvelle gauche de Besancenot, tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est que eux, ils ne créaient pas d'attentat. Donc, c'est une façon de couper le mouvement social, de le diviser et de livrer les gens qui sont ainsi inculpés. C'est ça qui est effectivement dangereux.
Comment s'organise la résistance en ce moment? Tu parlais d'une manifestation qui avait eu à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres formes de...
Oui, les conditions, 3000 personnes pour la lutte de Paris, c'est peu de choses. Il y avait plus de policiers que de manifestants.
Ça fait beaucoup de flics.
On filmait les gens des toits, etc. Donc, c'est une situation qui montre que le pouvoir a également la possibilité d'enfermer tout mouvement de contestation. Et moi, je pense que la situation est relativement grave, parce que sur une affaire aussi claire, bon, on peut expliquer historiquement que les gens ne réagissent pas lorsqu'on raconte des histoires aussi invraisemblables sur des islamistes. Il y a une préparation mentale d'une dizaine d'années, d'organisation de croisades par l'Occident contre effectivement l'islam, etc. Donc on peut se dire qu'il y a une préparation mentale qui fait que cette réaction est très difficile. Il faut que déjà les gens aient fait tout un chemin pour la compréhension des enjeux, des actes du pouvoir. Mais ici, les choses sont très claires. Elles sont présentées de façon très claire par le pouvoir, et le pouvoir est en train de réussir ce à quoi il veut arriver, c'est-à-dire avoir la possibilité d'arrêter quelqu'un, de dire qu'on n'a aucune preuve contre lui, et qu'on le maintient quand même en détention. C'est-à-dire d'arriver à une situation qui est similaire à ce qu'on a dans le Military Commission Act, sans avoir besoin d'inscrire ça au niveau de la loi. C'est pour ça que, effectivement, j'ai fait une relation entre l'affaire de Tarnac et les procès qui se sont faits dans le cadre du Military Commission Act. Parce qu'il y a également la même type de structure psychotique C'est pour ça qu'actuellement, j'ai tendance à travailler avec les concepts de la psychanalyse. Parce qu'il n'y a que ces concepts de la psychanalyse qui peuvent nous expliquer et nous donner les moyens pour remettre cette conscience à sa place. Et c'est un travail sur la subjectivité. Je peux peut-être parler, montrer que cette structure psychotique dans l'affaire de Darnac est très claire. C'est également le cas dans des procès américains qui ont lieu dans le cadre du Military Commission Act. Et vous avez peut-être entendu parler du procès de Hamdan. Hamdan, c'est quelqu'un de relativement connu puisque c'était le chauffeur de Ben Laden. Et Hamdan, qui est resté enfermé pendant des années, a finalement été jugé. Il a été condamné par une commission militaire, vous expliquez ce que c'est ce tribunal, donc on n'a eu aucune chance de vous défendre ce genre de tribunal. L'élément matériel de preuve qui a permis de le condamner, c'est-à-dire le fait qu'il était le chauffeur de Ben Laden, alors qu'il était un salarié, lui était chauffeur pour gagner sa vie. Et le fait d'avoir véhiculé Ben Laden, l'élément matériel lui a été arraché sous la torture. C'est sous la torture qu'il avait avoué avoir été chauffeur de Ben Laden. Donc, il y a déjà un premier renversement de l'ordre de droit ici, c'est-à-dire accepter comme preuve, comme frais, quelque chose qui a été arraché sous la torture. Ensuite, lui, il a été condamné parce que, par le fait qu'il était chauffeur de Ben Laden, il aurait apporté un soutien matériel au terrorisme. Ce qui est déjà une deuxième distorsion. En quoi véhiculer quelqu'un est un soutien dans un cadre d'un contrat salarié et le fait d'apporter un soutien matériel au terrorisme. Mais le troisième renversement est beaucoup plus intéressant, puisqu'il y a peu de personnes qui le savent, mais Ben Laden lui-même n'est pas inculpé par la justice américaine dans le cadre de l'affaire du 11 septembre. Il n'est pas inculpé, ni même recherché officiellement par le FBI, parce qu'il n'y a aucun élément matériel de preuve. Vous avez quelqu'un qui est condamné pour soutien matériel au terrorisme, pour avoir véhiculé quelqu'un qui est désigné comme responsable des attentats, mais qui n'est pas inculpé lui-même. Ça, ce n'est pas également un bel exemple de structure psychotique, et on fait difficilement mieux.
Est-ce que ça ne prouve pas aussi que dans le fond, l'état de droit ne sert qu'au pouvoir de légitimité, que dans le fond, il est prêt à le bafouer n'importe quand ça ne fait plus son affaire?
L'état de droit, ça déjà un petit temps que ça n'existe plus. L'état de droit, je ne pense pas qu'il sert au pouvoir. L'état de droit a été imposé. Le fait qu'on ait eu des libertés à un moment déterminé, ce n'est pas parce que le pouvoir ou l'état était bon, c'est parce que ces libertés et ces garanties lui ont été arrachées. Si maintenant l'état de droit est autant bafoué depuis une dizaine d'années, c'est effectivement parce que ce rapport de force qui a imposé des normes, qui a imposé des crans d'arrêt à la toute puissance du pouvoir, ce rapport de force n'existe plus. Donc il faut le voir dans ce sens-là. L'état de droit n'est pas un jouet au moins du pouvoir, c'est quelque chose avec lequel il a dû composer parce qu'il y avait des forces sociales, un mouvement social qui était capable de lui imposer des règles. Et maintenant, ces règles sont bafouées parce que ce mouvement social n'a plus cette force.
Une amie qui m'écrivait de France récemment me disait que, en fait, ce qu'on voyait en France, parce qu'elle est française, c'est le retour du fascisme en France.
Mais je pense que la notion de fascisme n'est pas intéressante parce que ça ne permet pas de comprendre ce qui est spécifique à l'époque actuelle.
Comment vous qualifiez?
Mais moi j'appellerais ça plutôt de meilleur des mondes, parce que la forme d'État est tout à fait différente.
Ouais.
Si on prend le point de vue de la forme d'État du fascisme, c'est une forme d'État paternel. Vous voyez, c'est un État effectivement autoritaire, qui est coercitif, qui discipline les corps, qui attaque les corps en les cassant. Ici, nous avons une forme d'État tout à fait différente. C'est-à-dire, c'est un État qu'on pourrait dire un État maternel. Ce serait plutôt, vous rappelez, Big Mother. C'est-à-dire un État où l'individu est en fusion totale avec le pouvoir. Et où, effectivement, le pouvoir n'est plus quelque chose qui est extérieur à l'individu et qui peut écraser l'individu de l'extérieur comme dans l'État du fascisme. Mais on vit dans une espèce plutôt de symbiose, d'unité, dans lequel il n'y a plus de différence entre l'individu et le pouvoir. C'est-à-dire, c'est ça la structure psychotique.
Hein. Et c'est ce qu'on reproche aux gens d'Arnac, par exemple, de refuser cette fusion avec le biopouvoir, de vivre en marge, de refuser les dispositifs de contrôle, de subvertir leur quotidien. Alors comment est-ce que peut se mener cette lutte envers le pouvoir dont tu parles, tout en demeurant dans le cadre de sa légalité?
Mais je crois que là aussi l'exemple de Tarek est intéressant, puisque eux, ce qu'ils voulaient, c'est vivre en marge de cette société. Donc échapper aux mesures de contrôle qui sont développées, que ce soit le contrôle ADN dont ils ouvrent face aux États-Unis, que ce soit le GSM ici, ou le fait d'établir des relations sociales avec les gens. Donc, c'est échapper au contrôle de l'État. Et on voit que vouloir échapper au contrôle ou ne pas simplement se soumettre proactivement à ce contrôle devient un délit. Et le délit le plus grave qui existe dans notre société, un délit terroriste. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut retirer de l'affaire de Tarnac. Le deuxième enseignement, c'est qu'on ne peut pas vivre en marge de cette société. C'est que cette société ne vous laissera pas la possibilité de vivre en marge. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de la confronter directement. Il n'y a pas d'échappatoire possible. On vit dans une société globale et ce contrôle est global. Donc, la résistance ne peut pas être une résistance parcellaire, elle doit être également une résistance globale. Je pense que c'est ces deux éléments liés qui sont également une leçon de cette affaire.
Peut-être juste une dernière question pour ce qui me concerne. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'État soviétique dont vous parliez est à quelque part pire que le fascisme?
Oui, nettement plus dangereux que le fascisme, parce que le fascisme, c'est quelque chose qui vous écrase. Vous avez le pied sur vous, mais en dessous du pied, il y a quelque chose. Ici, on est dans une société où cette résistance est tout à fait évanescente, puisqu'il n'y a plus de distinction entre l'individu et le pouvoir. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de rétablir cette distinction entre les gens et le pouvoir, c'est-à-dire rétablir le corps, rétablir cette séparation.
Mais est-ce que cette séparation, la confrontation dont tu parles, qui serait la possibilité de comme, entrer en lutte avec l'ordre mondial, comment est-ce qu'on peut entrer dans cette lutte tout en, par la voie légale, qui est une voie réformiste, donc qui participe à comme, l'enracinement de, ou la perpétuation de ce système avec lequel on veut entrer en confrontation?
Mais je pense que la confrontation avec le système est automatique, elle est immédiate. Parce que le système concerne toutes les formes, remet en cause toutes les formes de vie. Donc le simple fait de vouloir vivre, donc par exemple de ne pas avoir une antenne GSM en face de son appartement, c'est-à-dire d'échapper à des ondes qui détruisent votre structure ADN, est un acte de résistance qui met globalement en cause le pouvoir. Et cette résistance est donc directement le maintien de la vie, la lutte contre les OGM, contre la puissance de Monsanto. Chaque acte de résistance est automatiquement un acte politique qui remet en cause l'ensemble de la structure du pouvoir, puisque ce pouvoir est absolu, hein, qui règle l'ensemble des conditions de vie. Je pense que la première chose, c'est d'échapper dans ce qu'on veut nous enfermer, c'est-à-dire cette distinction gauche-droite, où vous avez une gauche réformiste qui veut exactement la même chose que la soi-disant droite. Donc c'est une espèce de distinction imaginaire a priori, qui a pu fonctionner à un moment déterminé, mais qui actuellement n'a plus cours. Il y a des gens qui sont pris dans la réalité imaginaire créée par le pouvoir, et les gens qui luttent contre, c'est-à-dire qui veulent rétablir la vie par rapport à la structure psychotique du pouvoir. Je pense que chaque axe de résistance contre les points déterminés est directement une lutte globale contre l'entièreté de ce pouvoir.
Est-ce que c'est pas pour ça aussi que dans le fond, les États, comme l'État français, ont si peur de ce qu'ils appellent le spectre anarcho-autonome, parce que les structures du mouvement soi-disant anarcho-autonome, que le qualifie l'État français, ne ça passe pas dans l'intégration aux formes traditionnelles du pouvoir? Formes traditionnelles ou les formes qui existent actuellement.
Je ne pense pas que l'affaire de Tarnac s'attaque spécialement à la structure anarcho-autonome. Hein. Cette structure culture anarcho-autonome existe essentiellement dans l'image qui est créée par le pouvoir.
Oui, mais il existe quand même des gens qui s'organisent sur des bases.
Oui, il y a des gens...
L'État nomme quand même des, certains textes, comme par exemple l'insurrection qui vient, ou on ramène aussi le spectre de fait que Julien Coupa a appartenu à Ticoun.
On a pu faire aussi bien le titre « L'insurrection est en retard », hein. Ça aurait été beaucoup plus proche de la réalité que « L'insurrection qui vient ». Je pense que si ça s'adresse à eux, c'est qu'effectivement, ils sont également partiellement piégés par le même type de problématique que le pouvoir veut installer, c'est-à-dire la problématique de l'image. Et donc, ils sont un élément dont le pouvoir peut se servir facilement. L'insurrection qui vient n'est pas le résultat de luttes sociales approfondies, c'est un essai essentiellement imaginaire qui a peu de rapport avec la réalité sociale. Et c'est exactement ce que fait le pouvoir. Le pouvoir raconte une histoire qui a peu de choses à faire avec la réalité sociale. Donc je ne pense pas que l'ennemi central du pouvoir français soit la puissance du mouvement anarcho-autonome. C'est plutôt sa faiblesse qui fait, c'est-à-dire sa structure essentiellement imaginaire, qui fait qu'il peut servir, ou du moins offrir une résistance relativement faible à ce que veut en faire le pouvoir comme repoussoir social, quoi. Également.
Alors, quelles seraient les formes de résistance actuelles qui seraient intéressantes du point de vue de la contestation de cet ordre mondial?
Mais je pense qu'on est dans la guérilla. On n'a pas le rapport de force pour choisir son champ d'intervention. C'est le pouvoir, chaque fois, qui nous fixe le terrain du combat. Et le terrain du combat, c'est notamment l'affaire de Tarnac. Ce qui pourrait arriver de pire au mouvement social, c'est de laisser pourrir cette situation, de ne pas avoir cette capacité de mobilisation pour montrer la structure dans laquelle veut nous enfermer le pouvoir. Donc, on n'a pas des champs particuliers, on n'est pas dans la situation de pouvoir choisir. Donc, il faut réagir au cas par cas dans les éléments que le pouvoir nous impose. Et les procès pénaux, hein, ou l'absence de procès, les arrestations arbitraires, comme c'est le Tarnac, sont des éléments tout à fait décisifs dans la recomposition d'un nouveau sujet social. Ce n'est pas comme le nouveau parti de la gauche anticapitaliste, c'est-à-dire quelque chose qui est également reconstruit autour de l'image. Hein. Besancenot est essentiellement une image qui est construite par les médias. Et il est lui-même le représentant d'une autre image à travers un livre sur Che Guevara. Quoi. Donc on est exactement dans la problématique qui est créée par le pouvoir. On n'est pas dans l'industriel, on n'est pas au niveau de là où les choses se passent, on est dans la recréation d'une nouvelle virtualité. Et ça c'est extrêmement dangereux. Un mouvement social ne peut se recomposer qu'à partir du réel. C'est-à-dire exactement à partir de ce que le pouvoir veut cacher et à partir de quoi on veut nous anéantir. Et le terrain, il est déterminé par le pouvoir. C'est notamment cette affaire de Tarnac qui me paraît tout à fait essentielle à ce niveau-là. Et jusqu'à présent, il ne se passe plus grand-chose à ce niveau-là. Hein. Le mouvement n'a pas eu la capacité de pouvoir élargir les choses. D'intellectuels, etc. Donc, à ce niveau-là, ça marche relativement bien. C'est quand même l'affaire dans les journaux, hein, on en a parlé quasiment dans tous les journaux, où c'est relativement favorable aux inculpés. Au début, c'était pas le cas, mais c'est devenu de plus en plus, après la prise de position d'intellectuels, je crois que c'est la position d'Agamben qui a fait la coupure à ce niveau-là. Hein. À partir de ce moment-là, au niveau des intellectuels, il y a quand même un soutien relativement important. Mais on voit que ce n'est pas ça qui crée le rapport de force.
Qu'est-ce qui crée le rapport de force?
Le rapport de force, c'est le mouvement social, c'est-à-dire la capacité d'unir les gens qui se battent. Et actuellement, c'est la division. Puisque les gens qui se définissent comme la gauche de la gauche, on dit, nous, ne faisons pas d'attentat. Donc, on reprend exactement la problématique du pouvoir.
Mmh. Oui, tout à fait. Alors, ils sont collaborateurs.
Mais ce ne sont pas des collaborateurs, ce sont des gens qui sont dans la psychose.
Ouais, mais même s'ils sont dans l'excuse de quelque part, c'est ce qu'ils font, ils collaborent avec le pouvoir parce qu'ils retransmettent le discours du pouvoir, mais autrement.
Oui, voilà, c'est le résultat, effectivement.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat pour instaurer un rapport de force, selon vous, pour la libération de Julien Coupa ou la libération de plein d'autres prisonniers politiques?
Sans entrer dans la psychose?
Et je pense que, enfin, de mon côté, ce que je fais, c'est faire un maximum de papiers, de conférences sur ce niveau-là, de mettre les choses à plat. Mais moi, je ne suis pas le mouvement social, je suis un individu isolé. Tant que une bonne partie du mouvement social ne prend pas conscience de l'enjeu de ces pratiques pénales, et de voir que le cœur du mouvement social va se jouer là, et non pas sur d'autres types de revendications, c'est ça, c'est de favoriser cette prise de conscience, de montrer qu'actuellement, l'organisation du pouvoir, la façon dont le pouvoir s'adresse aux populations, se fait essentiellement par le droit et les procédures pénales. Et c'est pas étonnant, puisqu'on vit de plus en plus dans une société d'individus, hein, où les individus sont coupés les uns des autres. Donc, le pouvoir ne s'adresse plus à des forces sociales constituées, et donc le droit du travail, etc., redevient un peu secondaire, alors qu'il était principal auparavant. Ce sont les procédures pénales qui deviennent essentielles, puisque les procédures pénales s'adressent à des individus. C'est des individus qu'il faut casser, qu'il faut brimer, qu'il faut considérer comme terroristes. Donc, réagir contre ce genre de mesures, c'est également briser ce qui fait la structure fondamentale de cette société, c'est-à-dire le fait qu'elle nous transforme en individus coupés les uns des autres. C'est-à-dire rétablir la conscience, et la conscience est quelque chose de collectif, et non pas d'individuel.
Et rétablir la possibilité d'agir, et de se regrouper des corps.
Oui, bien sûr, mais ça c'est la conscience. Hein. La conscience, c'est une autre façon de dire qu'on agit. Et la conscience n'est pas quelque chose de passif. Agir et être conscient, c'est deux façons de dire la même chose.